Hier, après 24 heures, plus de 24 heures depuis le début d'une opération militaire de l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Haut-Karabakh, les séparatistes arméniens ont annoncé qu'ils déposaient les armes. Blaise est revenu sur la situation dans la région avec Sébastien Boussois, il est chercheur en relations internationales.
Sébastien Boussois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en relations internationales. Alors que les combats armés dans le Haut-Karabakh ont fait au moins 32 morts en 24 heures, un cessez-le-feu a été déclenché et des pourparlers programmés. Alors avant d'en venir à l'actualité, si vous le voulez bien, pourrions-nous faire un petit récapitulatif de la situation avant cette opération ? Que se passe-t-il dans cette région du monde ?
C'est une région complexe, avec une histoire complexe, une histoire avec des pays qui se sont constitués, reconstitués après l'effondrement du bloc soviétique, et des sociétés notamment arméniennes et azerbaïdjanaises qui coexistaient avant l'effondrement du bloc soviétique. Et puis il y a eu les indépendances, et puis chaque pays a voulu à la fois marquer son territoire, mais redéfinir aussi une partie de ses frontières. C'est malheureusement ce que l'Arménie a fait en grande partie, en réalité, en lançant une opération de conquête de 20% du territoire azerbaïdjanais entre 1988 et 1992-93, ce qui l'on appelle habituellement la première guerre du Karabakh, et qui a provoqué notamment l'expulsion et le départ d'à peu près 700 à 800 000 Azerbaïdjanais. La situation d'occupation a duré pendant à peu près 27 ans jusqu'à ce que l'Azerbaïdjan décide en 2020, avec le soutien non caché de la Turquie et d'Israël, de récupérer ces territoires pour lesquels il avait demandé plusieurs fois aux Nations Unies de faire respecter les résolutions même des Nations Unies qu'elles avaient votées et qui reconnaissaient que ce territoire du Karabakh, où étaient restés encore à peu près 30 000 Arméniens et jamais 120 000, comme c'est dit en permanence dans l'ensemble des médias, puisse être restitué à l'Azerbaïdjan. Bon, Bakou a fait le choix de la guerre pour récupérer ce territoire en octobre, septembre, à novembre 2020. Et depuis bientôt 3 ans, l'Azerbaïdjan à Bakou a récupéré un peu plus des 3/4 de ce territoire azerbaïdjanais. Mais il reste une enclave. Il reste une enclave au sein même du territoire azerbaïdjanais où restent et vivent encore à peu près 30 000 Arméniens, comme je le disais, et qui sont un peu les irréductibles Gaulois, pardon, du Caucase, et qui sont soutenus par l'Arménie et qui posent problème et posent un certain nombre évidemment de tensions depuis quelques mois. Alors pourquoi ? Parce que dans le cadre de la déclaration tripartite de 2020, où la Russie devait servir de force à la fois d'interposition mais également de gestion du traité, alors du cessez-le-feu, pardon, puisqu'on n'en est pas encore au traité de paix, les Russes devaient assurer la sécurité, et notamment un des points fondamentaux de cette déclaration, qui était le désarmement complet de la région. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et depuis 2 ans et demi, Erevan a fourni un certain nombre d'armements et d'équipements qui passaient notamment dans les convois dits humanitaires par la fameuse route de la Chine, qui devait ensuite arriver dans l'enclave que les Arméniens appellent Artsakh. Et les Azerbaïdjanais, pour des raisons de sécurité, au-delà du déminage qui a été extrêmement compliqué des territoires qu'ils avaient récupérés, ont décidé de bloquer cette route, puisqu'ils considéraient que les Russes ne faisaient pas la mission fondamentale qui leur a été attribuée dans le cadre de la signature du cessez-le-feu en 2020, c'est-à-dire assurer d'une part la sécurité entre les deux territoires, mais surtout pousser et favoriser la démilitarisation de la région. Et on voit bien que la boucle est bouclée, puisque au-delà des événements qui se sont passés depuis 24 heures, les fameux séparatistes du territoire qu'ils appellent Artsakh ont décidé de déposer les armes, ce qui sous-tendait bien clairement qu'il y avait encore de l'armement qui était problématique, plus des mines qui continuaient à être posées sur la route et sur le chemin entre les deux territoires.
Justement, une opération de 24 heures, c'est un feu de paille ou un coup de force ?
On appelle ça comme on veut. Les arguments de l'Azerbaïdjan sur la question de la sécurité, la question aussi de l'exploitation des terres dans l'enclave qui joue en défaveur de Bakou, puisque les Arméniens ont beaucoup, d'ailleurs, pendant les 27 ans d'occupation, rasé de forêts, exploité les sous-sols, et que les Azerbaïdjanais considèrent que c'est leur territoire. Donc, Feu de paille, je ne sais pas, parce que la solution n'est pas fondamentalement trouvée tant qu'il n'y aura pas un accord de paix définitif. Les Européens s'y sont engagés, notamment à travers la voix de Charles Michel, président du Conseil européen, encore pour le moment, et qui avait promis que l'on parviendrait à un accord avant Noël. Aujourd'hui, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. L'Azerbaïdjan a commencé à reconstruire largement le Karabakh, veut être sûr que la sécurité soit assurée, que la démilitarisation soit mise en place. Alors les Azerbaïdjanais ont un peu mordu sur les territoires arméniens pour distinguer des raisons de sécurité, mais du côté du Karabakh restant, c'est à la fois, je trouve, une instrumentalisation malheureusement des Arméniens qui restent dans cette enclave au profit d'Erevan qui n'a plus les moyens aujourd'hui d'assurer à la fois une sécurisation de ce territoire, mais qui a aussi gâché beaucoup d'argent dans une occupation qui ne lui avait été si bénéfique que ça. Donc c'est aussi pour ça que très rapidement, les séparatistes ont déposé les armes, parce que l'Arménie n'a pas aujourd'hui les moyens d'assurer la sécurité de ces personnes-là. Et deuxièmement, c'est aussi pour ça que l'Arménie, accusant la Russie, du coup tout le monde accusait la Russie dans cette histoire de ne pas respecter ses engagements, et pour raison, parce que Poutine avait d'autres chats à fouetter manifestement sur d'autres terrains de guerre, c'est pour ça que l'Arménie, la semaine dernière, s'est aussi rapprochée des États-Unis en se désolidarisant un peu de son allié historique, qu'est la Russie, tout en gardant cette relation privilégiée et à mon avis un peu problématique que Erevan a toujours avec l'Iran.
En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, plusieurs pays ont appelé à l'arrêt immédiat de l'offensive. L'Azerbaïdjan commerce avec l'Occident. Le pays a-t-il pu prendre peur d'être sanctionné comme par exemple la Russie l'a pu être commercialement?
Je ne crois pas, parce que ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui a décidé d'arrêter cette offensive, ce sont les séparatistes qui ont décidé de déposer les armes après 30 morts. Donc, si on remet les choses un peu dans ce contexte, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre frappant en termes au moins d'information et de compréhension de cette histoire, car tout se fait, je trouve, souvent peut-être un peu trop à travers le prisme de la diaspora arménienne. Ce qui est clair, c'est que on voit bien aujourd'hui la manière dont les choses sont orientées. Je pense que de toute façon, les deux parties sont condamnées à s'entendre et à discuter. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, depuis le début, mène ces négociations malgré les difficultés, ça c'est clair, a quand même le soutien d'une large partie du peuple arménien, a été réélu après la signature de la déclaration tripartite en 2020, et aujourd'hui certains appellent à sa démission parce qu'on l'accuse parfois d'être sous prétexte qu'il veuille parvenir à la paix, peut-être dans la volonté de dialoguer avec l'Azerbaïdjan, ce que la diaspora ne veut absolument pas entendre. La situation, évidemment, elle est compliquée, elle doit être portée dans le cadre du multilatéralisme, probablement dépasser les accords régionaux comme ceux qui peuvent être faits avec la Russie, puisqu'évidemment, la Russie a, pardonnez-moi l'expression, du plomb dans l'aile depuis 1 an et demi, notamment en termes de médiation dans ce genre de situation-là, et que si les Nations Unies décidaient, comme elles l'ont fait d'ailleurs en 1900, comme je vous le disais avant, 80-1992, d'adopter des résolutions, soit qui finissent de reconnaître que l'ensemble du territoire du Haut-Karabakh appartient toujours à l'Azerbaïdjan, tout en préservant évidemment la sécurité de la minorité arménienne dans ce territoire, je pense qu'on avancerait. Deuxièmement, l'Arménie, dans le cadre du multilatéralisme, a tout intérêt à, comme elle l'a fait d'ailleurs à travers la voix de Nikol Pachinian, à reconnaître le Karabakh azerbaïdjanais, il l'a fait au mois de mai, mais à essayer d'entrer avec l'Azerbaïdjan, qui doit aussi faire cet effort, entrer dans une coopération régionale qui sortira, je l'espère, ces territoires et ces pays de l'ornière, parce que tout est bloqué aujourd'hui à cause de ça en termes de sécurité, mais également en termes de coopération économique. Et si l'Azerbaïdjan va très bien économiquement, c'est pas du tout le cas de l'Arménie aujourd'hui.
Vous parliez du fait que l'Arménie se tournait de plus en plus vers les États-Unis et un peu moins vers la Russie. Pour faire une petite photographie géopolitique, quels sont les soutiens des deux pays?
L'Azerbaïdjan est largement soutenu par la Turquie et par Israël, d'un point de vue de coopération, d'un point de vue d'histoire déjà. L'Azerbaïdjan est un pays turcophone. L'Azerbaïdjan, qui est chiite et totalement laïque, a un intérêt stratégique avec la Turquie, qui n'est pas du tout chiite et pas du tout laïque, mais ce sont évidemment des intérêts et des conjonctions d'intérêts de pure réal politique. Il y a un soutien de la part de la Turquie en termes de militaires et de stratégiques. Les drones, les fameux drones qui ont permis à l'Azerbaïdjan de gagner la guerre de la Seconde Guerre du Karabakh en 2020, sont des drones qui viennent essentiellement de Turquie. Et puis il y a une affinité très forte entre l'Azerbaïdjan et Israël. Parce que il y a une histoire de la présence juive en Azerbaïdjan, et puis parce que aujourd'hui 40% du gaz qui arrive en Israël vient directement de Bakou, de l'autre côté, du côté de l'Arménie. Et c'est ça que je trouve parfois un peu problématique si on veut défendre l'Arménie, qui a absolument tous les droits d'assurer sa sécurité dans le cadre de ses frontières traditionnelles, en tout cas celles qui sont reconnues par le droit international et non pas celles qui ont suivi une partie du déclenchement de l'occupation il y a 27 ans. On oublie que l'Arménie est soutenue par, jusqu'à maintenant, par la Russie et par l'Iran, qui sont deux pays sous sanctions internationales, et que on voit bien aussi, on a vu une explosion du commerce, de la balance commerciale arménienne depuis l'année dernière, de manière absolument surréaliste. J'en ai oublié les chiffres, mais pour lequel on a bien compris que l'Arménie servait aussi de courroie de transmission au détournement des sanctions contre la Russie, et que beaucoup de produits passaient par l'Arménie avant d'arriver en Russie. Alors on voit aujourd'hui que l'Arménie a compris que les États-Unis étaient prêts à rentrer à nouveau dans le jeu régional. Pour autant, est-ce que Anthony Blinken sera à même d'être celui qui permettra d'accéder enfin à cette fameuse paix? Je n'en suis pas sûr, surtout dans un contexte où, quoi qu'on en dise, l'affaiblissement du multilatéralisme d'une part et le retour des puissances régionales dans leur zone d'influence est très forte. Je crois qu'il faudra compter effectivement soit sur la Russie, mais il y a un essoufflement clair et net, soit sur la Turquie, soit, ce qui est compliqué évidemment avec l'Arménie pour les raisons historiques que vous connaissez, soit d'autres pays qui voudraient jouer le rôle de médiateur. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aider. Et à mon avis, c'est la priorité, l'Arménie, à être indépendante et autonome économiquement, c'est-à-dire se désolidariser de pays qui sont problématiques au regard de la communauté internationale et pour lesquels je pense et je trouve qu'on ferme un peu trop les yeux depuis quelques mois, à savoir l'Iran et la Russie.
Sébastien Boussois, je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.